Si vous n'aimez pas l'histoire, on tâchera de vous la faire aimer. Si vous l'aimez, on tâchera de ne pas vous dérouter. Les Chemins du Passé, association d'histoire basée à Saint-Symphorien-de-Laye, vous propose de partager des moments de notre histoire en essayant de la rendre vivante, même si la manière de les présenter parfois imaginée, faits et personnages sont véridiques. Micro-histoire sur RVR, présentée aujourd'hui par Claude Janin et Noël Goutenoir.
Jeuvre, un oppidum.
J'ai entendu parler d'un site habité autrefois, Jeuvre, qui aurait été un oppidum. Ça se trouve où ?
Eh bien, c'est un éperon situé sur la rive droite de la Loire. Il est en amont de Roanne et du barrage de Villeray. En fait, il est juste en face de Saint-Jean-Saint-Maurice.
Oui, mais aujourd'hui, ce n'est qu'un hameau. C'était quoi exactement un oppidum ?
Alors, c'était des formes d'agglomération à l'époque celte. De vastes espaces fortifiés situés sur des hauteurs pour se protéger. Mais au-delà de leur situation de défense, ils avaient une vocation commerciale et aussi souvent politique. Ils étaient donc souvent situés à proximité de voies de communication.
Ils dateraient de quand ?
Eh bien, a priori, l'oppidum de Jeuvre daterait, comme beaucoup d'oppida, du début du IIe siècle avant notre ère. Car comme je l'ai déjà dit, le commerce a été étroitement lié à l'émergence et à l'aménagement des formes urbaines nouvelles qu'étaient les oppida. Comme l'évoque Michel Vaginet des services archéologiques, au-delà d'une position de défense, je le cite, l'oppidum celtique est aussi le produit d'une profonde mutation économique et sociale entamée dès le IIe siècle avant notre ère. L'apparition dès ce moment de la monnaie et d'un système où elle acquiert un rôle d'unité de valeur prépondérant sont parmi les plus nettes de cette transformation. Il faut se dire d'ailleurs que durant ces deux siècles, avant notre ère, Jeuvre couvrait près de 70 hectares, alors que Roanne ne s'étendait que sur 6 à 7 hectares.
Et qu'est-ce qui permet de le dire ?
Eh bien essentiellement les travaux archéologiques, hein, pour l'essentiel, ainsi que des relevés sur le terrain de ce qu'a pu être le mur d'enceinte. Au lieu dit Jeuvre ont été effectués en 1910 des fouilles sous la houlette de l'archéologue rouennais Joseph Deschlette. Y ont été trouvés des implantations de bâtiments et divers objets, dont les plus remarquables sont des bijoux plus qu'originaux représentant un cheval et un sanglier. Un demi-siècle plus tard, Perrichon a entrepris d'autres fouilles qui ont complété ses premières trouvailles.
Vous dites que les oppida avaient une vocation commerciale. Y avait-il un commerce si développé ?
Mais oui, parce que le commerce entre Romains et Celtes existait déjà bien avant la conquête de la Gaule par Jules César. Et penser que les peuples antiques vivaient renfermés sur eux-mêmes est pure vue de l'esprit. Les trouvailles archéologiques dans les sites de bord de Loire, par exemple, hein, notamment sur le département de la Loire, révèlent ainsi des échanges commerciaux importants dès cette époque celte. Des monnaies provenant de diverses parties de la Gaule et du bassin méditerranéen, des gisements importants dont le meilleur exemple sont les amphores ayant servi au commerce des liquides, comme les huiles et le vin, ou provenant de diverses régions d'Italie. Robert Perrichon décrit très bien ce qu'a pu être ce commerce, je le cite. Soit par le Rhône, soit sur des animaux ou des chariots, suivant la vallée du Gier ou d'autres vallées plus au sud, mettant en communication vallée du Rhône et vallée de la Loire. Les amphores ainsi parvenaient jusqu'à la Loire. Nous retrouvons des amphores à Feur, au Crêt-Châtelard, à Jeuvre et à Roanne, au Mont-Beuvray également. Vincent André, un autre historien, en donne une vision complémentaire. Je le cite également. Les marchands massiliotes entreprirent en plus grand les voyages effectués par les Phéniciens 300 ans plus tôt. Préférant le chemin du Rhône au trajet maritime par le détroit de Gibraltar, trop long, ils remontaient le courant à la voile, à l'aviron ou en halant leurs embarcations. Après transbordement, ils traversaient la partie centrale de la Gaule et reprenaient ensuite le cours de la Loire, de la Seine ou du Rhin. À leurs embouchures, ils rencontraient les marines britanniques et armoricaines. Ils faisaient avec elles leurs échanges. Des productions variées de l'Orient et de la Méditerranée, l'ivoire, les épices, les étoffes de laine, contre de l'étain de Bretagne, de cuivre, des peaux et de l'ambre jaune, considérées alors comme une véritable monnaie.
Alors, pourquoi les Phéniciens ?
Eh bien, parce que justement, dans la création de ces échanges, on leur attribue le développement des routes de l'étain plusieurs siècles auparavant, probablement 5 à 6 siècles, dès l'âge du bronze. L'étain était alors, à l'époque de la proto-histoire, une denrée rare et recherchée. Pourquoi ? Eh bien parce que, allié au cuivre, qui était trop tendre pour confectionner outils et armes, il donnait le bronze beaucoup plus dur. C'est dire l'enjeu non seulement de consommation, mais surtout stratégique, qu'il pouvait représenter. Or, les gisements d'étain se situaient essentiellement en Armorique ou en Cornouaille. Pour convoyer ce métal de Bretagne à la Méditerranée, l'un des itinéraires importants reconnus à ce jour, pour aller de l'embouchure de la Loire jusqu'à Marseille, remontait le cours de la Loire jusque dans la région rouennaise, pour ensuite traverser par voie terrestre Mont du Beaujolais et du Lyonnais actuel, et enfin descendre le Rhône jusqu'à la Méditerranée et ses pays riverains. D'aucuns émettent d'ailleurs l'hypothèse que les Ligériens d'aujourd'hui aurait pour ancêtre non seulement les Ségusiaves, celtes habitant le territoire entre Loire et Rhône, mais aussi les Phéniciens. Ainsi, s'il fallait le montrer, les flux commerciaux sont très anciens. Et Gèvres, certainement à l'aboutissement du chemin de Sayette venant à cette époque de Vienne, devait être un port fluvial important.
Pourquoi important ?
Parce que si l'on regarde le long de la Loire, il y avait à ce jour reconnu trois oppidas celtes qui surplombaient les gorges et qui ont été identifiés comme lieux d'embarquement et de traversée de la Loire. L'oppidum des Salois, au sud, vers Saint-Étienne, et plus en aval, les oppidas du Crèche-Châtelard à Saint-Marcel-de-Féline et de Gèvres à Saint-Jean-Saint-Maurice. Or, ce dernier, l'oppidum de Gèvres, justement, présente l'avantage de se situer au débouché des gorges de la Loire, là où le fleuve commence à avoir un cours plus régulier et offre une navigation plus aisée. Parmi les oppidas du bord de Loire, il paraît donc avoir été particulièrement actif, important et intéressant.
Pourquoi important ?
Reprenons le fil du fleuve. Le long de la Loire, trois oppidas celtes, surplombant les gorges, ont été identifiés comme lieux d'embarquement et de traversée de la Loire. L'oppidum des Salois, tout d'abord, près de Saint-Étienne, et plus en aval, les oppidas du Crèche-Châtelard à Saint-Marcel-de-Féline et justement celui de Gèvres à Saint-Jean-Saint-Maurice. Ce dernier présente l'avantage de se situer au débouché des gorges, là où la Loire commence à avoir un cours plus régulier et offre une navigation plus aisée, ce qui est intéressant pour une continuité des flux commerciaux. De plus, parmi ces oppidas de bord de Loire, celui de Gèvres paraît avoir été particulièrement actif et important. À défaut de connaître le nombre de leurs habitants, leurs surfaces respectives peuvent permettre d'en avoir une idée. Le rempart de Gèvres, par exemple, protégeait une surface de près de 75 hectares. Par comparaison, celui de Gergovie enfermait 65 hectares, celui de Bibrac 135 hectares. Tandis que ceux des autres oppidas ligériens, Essalois et Crèche-Châtelard que nous avons cités, ceinturaient des espaces de l'ordre d'une vingtaine d'hectares seulement. Gèvres ressort ainsi comme un oppidum majeur, le plus grand des oppidas ligériens explorés et connus à ce jour, et d'un ordre de grandeur comparable à la capitale des Arvernes, Gergovie. Ainsi, jusqu'au 1er siècle de notre ère, quand Roanne n'était qu'un village et Gèvres un puissant oppidum, il est plus que probable que les chemins gaulois aient conduit alors à cet oppidum plutôt qu'à Roanne même. D'autant plus que les restes d'un pont qui a pu être gaulois laissent penser qu'au-delà du rôle de port fluvial que jouait Gèvres, il a pu être aussi un port traversier permettant au-delà de la Loire de rejoindre le pays Arverne. L'étroitesse du passage sur le fleuve en cet endroit rend tout à fait plausible l'existence d'un pont gaulois.
Gèvres donc un site important de notre territoire.
Important, et un site méconnu et dont cette importance aujourd'hui est sous-estimée. Il mériterait donc d'être mieux connu, mieux exploré, car Gèvres a pu plus que jouir d'un positionnement très favorable sur les chemins de portage et les flux commerciaux qui empruntaient les chemins de Crète à l'époque celtique. Je cite un autre historien qui évoque Gèvres dans ce sens. Une grande route passait très certainement par Saint-Maurice-sur-Loire. Elle aboutissait au hameau de Gèvres, sur la rive droite du fleuve. Cette route, dont on reconnaît encore des vestiges sur l'une et l'autre rive de la Loire, la traversait sur un pont dont il ne reste que deux ou trois piles en pierre. Ces piles sont pentagonales et leur construction n'est ni le fer des Romains du temps de leur invasion et encore moins depuis. Elle date d'une époque plus reculée.
Micro-histoire sur RVR, présentée aujourd'hui par Claude Janin et Noël Goutenoir.